Bonsoir Marie-Madeleine, tu prends place dans le fauteuil pour mieux écouter. Tu as raison. Et tu fermeras les yeux pour essayer de bien en profiter. Merci d'être venue en tout cas. Allez, générique. Bien voilà, de retour, chers amis lecteurs, chers amis lectrices, auditeurs et auditrices, puisque finalement c'est moi qui vous fais la lecture et c'est vous qui écoutez. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 22e live Facebook. Je dis à chaque fois tous les soirs, déjà. Et on commence à voir la fin, hein. Milieu de semaine prochaine, la lecture sera terminée. Mais bon, d'ici là, on a encore tout ce soir et puis on a encore les 2-3 premiers jours de la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, 21 mai 2020, 18h30, c'est l'heure de votre pause lecture, durant laquelle nous allons terminer le chapitre 11, clore le chapitre 11 avec sa quatrième partie. Chapitre 11 qui était consacré à une grande discussion entre notre personnage Frédéric et l'abbé de qui venait d'Allemagne pour lui expliquer un petit peu le fonctionnement, enfin un petit peu même beaucoup, le fonctionnement de l'univers d'Exilium, de l'univers des Legati. Aujourd'hui Frédéric va encore en apprendre, mais ce n'est qu'un début parce qu'en fait, comme vous le comprendrez, il aura toute sa vie pour bien assimiler toutes les informations qu'il absorbe depuis quelques jours maintenant. Alors nous allons commencer la lecture avec tout d'abord un résumé de la lecture précédente. Alors aujourd'hui la fin de ce chapitre est relativement petite. Je dis bien relativement, on va terminer encore avant, un petit peu avant 19h. Je vais essayer de parler plus lentement que les autres fois parce que je sais que j'ai un fort débit et je dois un petit peu me maîtriser de ce côté-là. Allez, c'est parti, je chausse les lunettes et on passe au résumé de la lecture précédente. Et faites comme Marie-Madeleine, qui s'est déjà installée confortablement dans son fauteuil. Allez, c'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Résumé de la lecture précédente. Frédéric est impressionné, mais aussi stressé par la quantité de nouvelles informations qu'il doit ingérer pour s'approprier le petit monde des Legati. Oh, mais l'abbé le rassure. Cette impression d'être un peu perdu s'estompera avec le temps. Dès qu'il comprendra que rien ne lui sera imposé et que ce temps justement qui passera prendra soin de lui. Si bien entendu, il accepte d'accorder davantage de place à son intuition. Une intuition qui doit, dans un premier temps, l'aider à repérer les Legati dans le cadre de son travail au lycée. Exilium, livre 1, chapitre 11, quatrième partie. Nous sommes toujours samedi à l'abbaye de Noirlac. Guilhem et Kevin me disaient aussi que la Bretagne et le Berry sont des réservoirs à Legati. Ce que vous me disiez tout à l'heure, mais pourquoi ces deux régions en particulier? Puisqu'en fait, les Legati, on est supposé les retrouver partout, au même titre que les gens qui sont gauchers finalement. Bien entendu, cher ami, mais ce n'est qu'un simple arbitraire géographique. En ce qui concerne le Berry, on a noté une affluence de Legati à partir du XIIe siècle. Oh, essentiellement en raison de la présence de l'abbaye de Noirlac, dont les moines gardiens ont longtemps fait de l'endroit un refuge. Presque une antichambre de l'antique Exilium, si on peut dire. D'ailleurs, tout Saint-Amand-Montrond garde des traces de leur ancienne présence ici. Quand vous irez en ville, prenez le temps de regarder les sculptures qui mettent en vedette des animaux, pas totalement animaux, mais des humains pas vraiment humains. Commencez par la fontaine de la place du marché. Les plus anciens tâcheront de vous donner des explications alambiquées sur l'origine artistique de ces figures. Mais si vous posez les bonnes questions, vous remarquerez qu'ils n'en savent pas davantage que les poteaux municipaux postés à l'entrée des jardins publics pour informer de ce qu'ils verront à l'intérieur. L'abbé se leva, puis m'invita à l'accompagner près d'un arceau, un peu plus loin dans la galerie est. Derrière, un espace béant témoignait de l'ancienne présence d'une sépulture, jadis encastrée dans l'épaisseur du mur. Voyez ça, cher ami, dans cet enfeu, on a découvert le squelette de ce qu'on pense être l'abbé Robert, qui a été le fondateur de l'ordre religieux cistercien. Il a rendu son âme au début du XIIe siècle. Alors, nous ne savons pas avec certitude s'il était légatif ou simple meneur, mais il connaissait leur existence, puisque c'est grâce à lui que l'abbaye refuge a pu voir le jour. Des fouilles ont permis la mise à jour d'autres sépultures d'ailleurs. Toutes n'ont pas été identifiées, mais jusqu'au XVe siècle à peu près, la plupart des abbés ont été enterrés ici. Ce fut aussi le cas du notable Hebe de Charenton, dont la générosité a permis à l'abbaye de se développer. L'endroit me mettait mal à l'aise. Emmurer les morts me paraissait très moyen comme idée de décoration. Moi, j'optais au plus vite pour un complément d'information sur le monde des vivants. Mais qu'est-ce qui pousse un legati à opérer une transition ? Oh, Frédéric, le legati est amoureux de la liberté, ça vous l'avez maintenant compris. Lorsqu'il fusionne avec la nature, il conserve sa pleine intelligence, mais fonctionne davantage avec le cœur et l'intuition. Oh, cette précieuse intuition dont je vous parlais tout à l'heure. Une fois transformés, les legati s'estiment mutuellement. Ils ne se mentent pas, car de toute façon, ils ne peuvent rien se cacher. Leur nature les pousse de façon irrépressible à communiquer avec le monde animal. Ils trouvent leur équilibre de cette façon. Mais leur frustration naît surtout de leur impossibilité actuelle à pouvoir transmettre leur savoir au monde des hommes de façon libérale. Vous êtes donc aussi là pour les écouter. Et qui sait, trouver une oreille éminente qui acceptera de recueillir leurs histoires. Mais ce sont de vrais bulldozers une fois transformés. Comment d'ailleurs un gars peu épais comme Kevin peut-il se retrouver en un instant avec un corps 10 fois plus gros que le sien ? Eh bien, figurez-vous, il y a quelques dizaines d'années de cela, un groupe de legati a accepté d'être l'objet d'études poussées sur leur physiologie. Oh, bien sûr, la technologie, la science a évolué depuis, mais les informations qui sont sorties de cette étude sont intéressantes. Les biologistes qui se sont occupés d'eux étaient bien intentionnés, je vous rassure, et les résultats de leurs travaux dépassent l'entendement humain. Les rapports issus de ces études ont ensuite été classés sous la protection d'ordre, comme celui auquel j'appartiens en Allemagne. Ah, et j'imagine que tous ces rapports scientifiques, vous les avez lus. Ah, cela va de soi. Techniquement, alors je ne suis pas un scientifique, bien sûr, beaucoup de choses m'ont été expliquées, mais en résumé, la structure cellulaire des legati est flexible, comme un chewing-gum. Mais ça, vous vous en seriez douté. On peut schématiser le processus, je dirais en prenant l'exemple d'une pâte à gâteau. Crue, elle est liquide, ou plutôt semi-liquide. Mais la cuisson casse et modifie la structure des molécules pour produire un corps solide pendant que la levure fait gonfler l'ensemble. Au final, dans votre gâteau, vous avez strictement la même chose qu'avant la cuisson. Mais le gâteau est structuré différemment. Il est dur, il est solide et surtout il a pris de l'embonpoint. Alors, la réalité est bien entendu bien plus complexe qu'un simple gâteau, mais le principe est identique. Enfin, la cuisson en moins. Ah, c'est comme les pop-corns alors. Une fois éclatés, hop, ils sont 20 fois plus gros. J'aimais bien ma comparaison avec un pop-corn et je tire une certaine fierté d'avoir pu la ressortir. Oui, un pop-corn, en quelque sorte, mais ce n'est pas la taille qui définit la solidité d'un corps, mais plutôt sa structure. Vous avez le privilège de travailler dans un lycée, alors demandez à un professeur de sciences physiques de vous expliquer cela. Un enfant qui avait découvert son don de legati très tôt, je lui avais donné l'exemple du Lego. Avec les mêmes briques, on peut construire exactement ce que l'on veut. Alors d'autres processus complexes interviennent et que je serais bien incapable de vous développer, comme l'absorption de l'humidité ambiante lors d'une transition pour nourrir et gonfler toute cette masse restructurée. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous ne verrez jamais un Legati se transformer en plein désert. La transition, d'abord, n'est pas garantie, et puis surtout la déshydratation brutale peut s'avérer dangereuse. Mais sous nos latitudes, aucun danger, même l'été. Mais, monsieur, il n'y a pas un risque qu'un jour un savant fou, un dictateur, cherche à cloner l'ADN des Legati pour en faire, je sais pas, des petits soldats? Ah, cette question, je l'attendais un moment ou un autre. Eh bien, bonne nouvelle. Figurez-vous que les deux ADN ont été comparés. L'ADN d'un humain conventionnel, comme vous, comme moi, et l'ADN d'un Legati avant et après la transition. L'abbé marqua une pause, comme pour appuyer le suspense qu'il venait d'amener. Et donc, cette comparaison des ADN, ça a donné quoi? Eh bien, aucune différence n'a pu être à ce jour constatée. Alors la bonne nouvelle est que ce caractère identique a confirmé l'appartenance des Legati à l'espèce humaine, hein, pour qui en douterait encore, mais la génétique ne parvient pas à formuler les mécanismes de transition. Alors, une hypothèse fantaisiste suggère un dispositif extérieur conscient, activé par la volonté du Legati, mais là on entre dans des chemins sur lesquels je ne me risquerai pas. En revanche, il y a une autre hypothèse, plus sérieuse celle-ci, qui envisage l'existence de plusieurs strates d'informations génétiques. Le séquençage en fait complet de l'ADN du génome humain est relativement récent, mais il ne serait que la surface d'un système de codage de l'information bien plus complexe. Pour vous expliquer ça de façon plus simple, c'est comme si on pensait avoir trouvé le secret d'une ville parce qu'on possédait des photos satellites en haute résolution des toits de toutes ces habitations. Alors qu'en fait, il reste à pénétrer toutes les pièces de la cave au grenier. Mais la science nous éclairera le moment venu. Oh là 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 là, ah, j'adore tout ce que vous me racontez. En plus, j'aime bien tout ce qui est un peu scientifique. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir 100 ans de plus. Oh, cher ami, ne soyez pas si pressé de vieillir. Vous savez, connaître la génétique des Legati n'est ni indispensable, ni encore moins une priorité. J'imagine que quand vous étiez enfant, vous n'avez pas attendu qu'on vous explique comment fonctionne le système digestif pour avaler votre première cuillère de confiture. Alors réjouissez-vous seulement d'être conscient de l'existence des Legati et de leur proximité. Je peux vous dire qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Eh bien, vous avez donc toute la vie pour les découvrir. C'est marrant votre formule. Et je peux vous en poser une, me concernant, vous poser une question. Vous savez très bien que je prendrai plaisir à écouter toutes vos questions, tout en vous raccompagnant d'ailleurs, parce que le temps passe. Nous amorçâmes notre retour vers la billetterie, pour laisser derrière nous ce magnifique temple de l'ascétisme. Aucun visiteur ne s'était présenté depuis l'ouverture. Bon, la photo froid et à la neige. Mais ce froid et cette neige n'avaient pas réussi à engourdir ma langue. Et depuis combien de temps les Legati se sont mis d'accord pour me choisir comme meneur? À la louche, comme ça, mais je ne dois pas être très loin de la réalité, je dirais à peu près un quart de siècle. C'est une blague? Un quart de siècle, ça fait 25 ans, mais c'est quoi cette histoire? Bon, c'est bien sûr une approximation, à quelques années près, mais on n'est pas loin. Hein. Est-ce que vous vous souvenez d'un certain Nathan? J'accompagnais ma réflexion par une fixation de la porte arrière du bâtiment d'accueil, comme si la réponse allait s'y afficher par miracle. Nathan, non, j'ai pas souvenir avoir connu un seul Nathan dans ma vie d'ailleurs. Bah alors, rappelez-vous un poste que vous auriez occupé dans le social ou l'éducatif. Ah, je vous mets sur la voie, Frédéric. Alors je me souviens d'un CAT pour adultes, mais que je sache, il n'y avait pas de Nathan. Ah, exact. Et j'ai connu un Nathan dans un foyer pour ados en difficulté. Mais comment vous savez ça? Vous enquêtez sur moi ou quoi? Ah, je vais vous expliquer, rassurez-vous. Et de quoi vous souvenez-vous concernant ce Nathan? Eh ben, c'est étonnant parce que je m'en souviens bien en fait. C'est son prénom que j'avais zappé. C'est pas forcément des souvenirs faciles à faire ressortir ce genre de choses. Je pris un air songeur. empreint de beaucoup de nostalgie. Je me souviens que Nathan avait été placé avec sa sœur dans ce foyer pour ados. Leur mère n'arrivait plus à subvenir à leurs besoins. Mais c'est ce qu'elle disait du moins, et elle avait promis de les récupérer quand sa situation s'arrangerait. D'ailleurs, les parents disaient souvent ça. Ça me choquait à l'époque. Mais Nathan vivait ce placement beaucoup plus mal que sa sœur. Ouh là là, il criait n'importe où. Avec des cris aigus en plus. Et à n'importe quel moment. Comme ça, sans raison apparente. Un son strident qui vrillait les tympans. Les éducateurs l'enguirlandaient à chaque fois, mais Nathan continuait. Ça, au contraire, ça l'amusait, comme une sorte de défi. Et puis un jour, je l'ai aidé à préparer ses devoirs, tout simplement. Mais hop, Nathan a repoussé son cri de guerre. Et puis je ne lui ai rien dit. Alors il a recommencé. Et comme je ne réagissais pas, sa sœur m'a demandé pourquoi est-ce que je ne disputais pas son frère. Je lui ai répondu que son cri me stressait aussi, hein, comme tout le monde. Mais finalement, que pour l'instant, c'était son mode de fonctionnement. Alors je ne lui en tenais pas rigueur. C'était peut-être plutôt à moi d'essayer de le comprendre. Enfin, j'avais quand même rajouté que je restais ouvert pour un mode de communication un petit peu moins brillant et plus pratique, hein, si jamais ça le tentait. Eh bien, depuis ce jour-là, figurez-vous que devant moi, jamais Nathan n'a poussé son cri. En revanche, je peux vous dire que les autres éducateurs n'ont pas eu cette chance. Eh bien, cher ami, c'est une belle histoire que vous me racontez là. Eh bien, figurez-vous que Nathan n'est pas un inconnu, Nathan était Legati. C'est une blague ? Mais bien sûr que non, cher ami. Il ne vous a jamais oublié et a communiqué avec les Legati qu'il connaissait pour partager cette expérience de vie. Ce fut un des facteurs, parmi bien d'autres bien entendu, qui a motivé a posteriori votre désignation comme meneur. Et depuis tout ce temps, j'ai été pisté, sérieux ? Moi, vous avez été pisté bien moins que par le moteur de recherche que vous utilisez chaque jour sur Internet, vous savez. L'information a circulé de Legati en Legati pour rester bien vivant jusqu'à ce jour. En même temps, vous n'êtes pas un grand voyageur. Ce foyer était dans l'Allier, vous êtes parti vivre dans le Var et vous êtes revenu dans le Cher. On ne peut pas dire que vous soyez très efficace dans l'art de disparaître, cher ami. Mais vous savez ce qu'est devenu Nathan ? Bon, nous l'imaginons heureux, bon qu'il soit. Mais votre cursus est passionnant. Vous n'avez pas idée du nombre de Legati que vous avez croisés sans vous en douter un seul instant. Lorsqu'ils ont appris votre retour dans la région, Guilhem a pris des dispositions pour s'inscrire à votre lycée au travers du pôle cycliste et il a été désigné pour être votre gardien. Un rôle qu'il continuera à porter avec votre assentiment. La suite des événements, eh bien, vous la connaissez. Attendez, il y a un truc qui va pas là. Je ne comprends pas. Guilhem n'était même pas né quand j'ai connu Nathan. Mais Frédéric, ne vous ai-je pas déjà dit qu'ils se transmettent les informations ? Cessez de me faire répéter deux fois la même chose. Les Legati ne bénéficient pas d'une mémoire collective. Pour l'instant, seule la science-fiction s'est appropriée ce genre de concept. Mais leur mécanisme de communication entre générations est aussi surprenant qu'efficace. J'espère avoir appris le plus important parce que là, je sature un peu. Va falloir que je m'approprie tout ça, c'est surprenant quand même. Ah, cher ami Frédéric, il vous reste encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre sur les Legati. Votre parcours ne fait que commencer. Mais ce parcours sera d'une richesse telle qu'il vous grandira. Je dois cependant formuler une recommandation. Ah! Je m'en doutais, voilà le revers de la médaille. Allez, je vous écoute. Frédéric, un peu de sérieux. Il serait déplacé d'être défaitiste avec tout ce que vous savez aujourd'hui. Vous êtes désormais au fait de l'existence d'individus porteurs d'une puissance que personne n'a réussi à ce jour à contrôler, malgré bien des tentatives. Et c'est tant mieux. Et en raison du rôle qu'ils jouent dans l'ordre naturel des choses, les Legati sont totalement inoffensifs, mais ils conservent leur libre arbitre. Il vous appartient désormais d'opérer un recadrage si la fougue de leur jeunesse prenait le pas sur la sagesse. Encouragez vos nouveaux amis à cultiver la discrétion, c'est indispensable pour leur propre protection, même s'ils sont instinctivement conscients de cet impératif. Et surtout, incitez-les à partager ce qu'ils savent auprès d'oreilles attentives. Mais avec prudence. Faites-leur comprendre que la connaissance et l'instruction aident aussi à tirer la société vers le haut. Et je fais quoi si un jour j'ai un problème avec la légatie? Il y a un protocole pour ce genre de situation? Tout dépend de votre définition du mot « problème ». Bon, concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez échanger avec eux. Et vous disiez aussi que je ne suis pas le seul meneur. Il en existe beaucoup? À part le proviseur, mais lui, c'est terminé, il n'est plus meneur, lui. Bon, cette fonction de meneur reste très informelle. Elle n'a rien d'une fonction commandée par la nature, vraiment. C'est plutôt un arrangement qui s'est mis en place avec le temps pour répondre davantage à des besoins sociétaux. Les légatis ne sont relativement pas nombreux. Les meneurs le sont bien entendu encore moins, mais à ce jour, vous en connaissez déjà deux, dont un déchu de ses privilèges. Deux, non, je suis désolé, je ne connais aucun meneur. Et à part le proviseur, qui est le second? Frédéric, comment avez-vous pu écouter tout ce que j'ai partagé avec vous sans m'associer à un meneur? Vous êtes un meneur? Honnêtement, j'y avais pensé un moment, je me posais la question, mais je n'allais pas plus loin. Mais pour moi, tout le monde devenait des meneurs, ça devenait délirant dans ma tête. Et puis, honnêtement, j'ai pas vraiment osé vous le demander. À l'avenir, cher ami, osez. L'hésitation et l'absence de curiosité sont des freins au savoir. Très bien. Eh bien, dans ce cas, permettez-moi d'oser en vous demandant franco comment vous vous êtes fait cette cicatrice sur la joue. Bonne question, je suis très heureux qu'elle arrive maintenant. Il me aurait été déplaisant de ne pas vous l'entendre la prononcer. Eh bien, figurez-vous que cette cicatrice, c'est un légati qui en est responsable. Oh, il est trop tôt pour m'étendre sur le sujet, mais vous recevrez une réponse complète en temps voulu. La cicatrice que l'abbé portait sur sa joue droite me fit penser au sigle ABC gravé au dortoir. Mais je n'imaginais pas un légati le blesser de la sorte. Un simple accident, peut-être, dont le souvenir l'indisposait. Mais, monsieur, vous ne m'avez toujours pas raconté l'histoire de l'abbaye. Vous avez à plusieurs reprises laissé entendre que les légatis sont liés à ce qui s'est passé ici. Eh bien, effectivement, ils le sont. Ah, tenez, je vous raccompagne jusqu'à votre véhicule et je vous raconterai en chemin. À l'occasion, n'hésitez pas à prendre sur votre temps libre pour visiter l'intégralité de l'abbaye. Mis à part la salle capitulaire, nous n'avons arpenté que les espaces chauffés. Il reste beaucoup à découvrir. En passant par l'accueil, je récupérais mes livres offerts avec amabilité par le gardien. Johanna les avait disposés dans un sac cadeau avec beaucoup de soin. L'abbé ajouta un petit carton dans le sac. Tenez, pour le cas où vous perdiez la première carte, il serait dommage que vous ne puissiez plus me contacter. Nous avons encore beaucoup de choses à nous dire, mais pour le moment, vous ne pouvez pas tout porter. Soyez conscient qu'un meneur est condamné à la solitude, tout comme les légatis. Vous devrez parfois mentir pour les protéger. Et je vous en conjure une dernière fois. Rappelez-leur la nécessité absolue de ne pas user de leurs facultés en public. Si Saint-Amand-Moron et Noirlac demeurent le centre historique de l'organisation des légatis depuis maintenant plus de 800 ans, la population ne doit quant à elle rien savoir, pour sa propre protection. Guilhem reste votre gardien pour vous protéger de ce que vous ne pouvez maîtriser, ou ce contre quoi vous n'êtes pas assez fort pour lutter. À vous d'assurer l'équilibre des légatis. Bien, ça me fait un petit peu peur. Je suis désolé, je rigole, c'est nerveux, mais ça me fait quand même un peu peur tout ça. Ne croyez pas que je... ne prends pas avec sérieux tout ce que vous me dites, oh là là, bien au contraire. Mais ça fait beaucoup de choses, à la fois vous me faites découvrir un monde magnifique, et à la fois vous me dites attention, attention. Voilà, ça. Bon, allez, je ferai la part des choses avec le temps. En tout cas, je me sens déjà crouler sous le poids d'une responsabilité derrière laquelle, finalement, je n'ai jamais couru. Mais dans 24 heures, vous ne vous lamenterez déjà plus. Allez, il est maintenant temps que je vous offre une petite leçon d'histoire sur l'abbaye de Noirlac. Permettez-moi de vous transporter 800 ans en arrière, ici même sur le sol que nous foulons. Fin de la lecture pour aujourd'hui et fin du chapitre 11. Je vous avais dit que nous serions bien à l'heure, il est 18h56. Voilà Marie-Madeleine, tu peux te réveiller. J'espère que tu n'as pas piqué du nez. La rediffusion, toujours de cette vidéo, de cette lecture audio, sera disponible dans quelques minutes sur cette page Facebook Exilium. Les autres vidéos sont également disponibles en rediffusion sur le site exilium.frédéricbellec.fr. Je vous mettrai le lien un petit peu plus tard, vous inquiétez pas. Vous retrouverez dans quelques jours également les podcasts au format MP3. Ainsi que les vidéos en haute résolution, parce qu'en fait, les vidéos qui apparaissent, les rediffusions vidéo qui apparaissent sur Facebook, je crois qu'on peut les voir en haute définition, mais en revanche, on ne peut pas les télécharger en haute définition. Donc je les mettrai en haute définition, gratuitement, bien entendu, pour tous, sur le site de la page, sur la page web officielle d'Exilium. Voilà, pour ce soir, c'est tout ce que j'avais à dire. Je rappelle simplement donc la semaine prochaine, lundi et mardi, nous entamons le chapitre... Alors attendez, c'est chapitre 12. Voilà, c'est le chapitre... Non, demain, pourquoi je dis lundi? On est jeudi, excusez-moi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Demain, nous sommes vendredi. Demain, c'est la lecture du chapitre 12, qui est un chapitre historique, ainsi que l'abbé vient de nous l'annoncer. Donc, si vous adorez l'histoire, notamment en rapport avec l'abbaye de Noirlac, ne loupez pas le rendez-vous de demain. Le chapitre est relativement court. Donc on terminera largement avant 19h, mais en revanche il est ponctué de détails historiques réels, authentiques. Alors le fantastique également, comme je vous l'avais déjà dit par le passé, est venu se greffer dans le rapport historique sur l'abbaye de Noirlac, mais vous saurez j'espère faire la part des choses. Plus exactement, comme le disait l'abbé, demain on va se reporter 800 ans plus tôt, par conséquent l'abbaye de Noirlac n'était pas encore construite. Ah! Voilà, clac. Donc on va vraiment voir la naissance de cette abbaye. Je jette un petit œil sur vos petits messages. Alors Marie-Madeleine, que j'ai salué tout à l'heure et que je resalue avec grand plaisir ce soir. Alors Marie-Madeleine, effectivement, qui pose la question, où sont les autres? Sont-ils à la plage? Possible. Quoi qu'il en soit... L'essentiel, c'est que la vidéo soit disponible en rediffusion à tout moment. Et je pense que certains en profiteront. Je sais que certains en profitent, notamment des blogueuses que j'ai vues circuler. Donc, pas de problème. Je sais que tout le monde sera au courant. Voilà. En tout cas, il fait chaud. Commence à sortir les ventilateurs. C'est infernal. On n'est pas habitué à ces chaleurs qui arrivent comme ça et puis qui partent. En attendant qu'on se revoie demain, surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Je vais encore réitérer tout ce qu'on entend à chaque fois d'information, mais bon, masque, visière, faites ce que vous voulez. Soyez prudents dans vos contacts avec les autres. Voilà. Je vous dis à demain, je vous embrasse tous, et puis, bonne soirée. Au revoir.